Couture.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez vous en.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ouais, ben c'est officiel, Charles Milliard qui se lance dans la course au Parti libéral du Québec. Ça vient d'être annoncé ou c'est en train de se faire, là, tranquillement, pas vite.
Oui, il a publié une vidéo ce matin pour annoncer ça sur ses réseaux sociaux.
Voilà. Donc, ça va faire jaser beaucoup. Notre invité, je voulais lui parler parce que, vous voyez, là, ça brasse pas à peu près en Amérique du Sud. D'ailleurs, il revient d'une tournée, il est allé en Argentine faire des grosses entrevues. Mm-hmm. Et, Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, comment ça va?
Bonjour, monsieur, ça va très bien. En début d'année, bonne année à toi. Ben, nos auditeurs.
Toi aussi, mon cher.
Oui. Comment tu vois ça? Tu arrives d'Argentine. Les Américains ont donné beaucoup de financement. Hein. Il y a eu quand même des grosses sommes à louer. Je pense que les Américains reprennent contrôle du continent.
C'est leur intention, du moins.
Ouais.
C'est leur intention.
Comment tu vois ça avec Venezuela? On est allé chercher Maduro. Les gens qui sont là en place, là, la vice-première ministre, je pense que la vice-présidente a quand même des accointances assez solides avec le régime Maduro.
Ça va prendre des semaines, voire des mois, voire peut-être des années, dégager tous les éléments du régime. Donc, beaucoup d'incertitudes sur place. Donc, d'abord, il faut le dire, ceux qui se réjouissent le plus de la chute de Maduro, ceux qu'on voit, là, les images, c'est des Vénézuéliens de la diaspora.
Donc des expatriés. Villes, là,
exactement. Ouais. Donc, qui ont subi le régime, qui ont dû quitter suite à une situation économique catastrophique, peut-être des dissidents politiques. Donc, c'est sûr que ces gens-là sont, disons, à 99 % là, peut-être, disons, à 80 là, % des gens qui ne soutiennent absolument pas Maduro, donc qui se réjouissent de sa chute. C'est des gens qu'on voit à Miami, à Buenos Aires, en Colombie, il y en a beaucoup.
En Europe.
Il y en a au Chili, ouais, il y en a partout, des Vénézuéliens. Ouais. Finalement, il y en a à Montréal.
Ouais.
Donc, les images qu'on voit de gens qui se réjouissent, ce sont les Vénézuéliens de la diaspora. Sur le terrain, moi, mes sources m'indiquent que les gens sont prudents. Pourquoi? Justement parce que tous les éléments du régime n'ont pas été dégagés. Il y a encore effectivement une police secrète.
La police secrète.
Très forte, très efficace, celle de Maduro. Donc, la première réaction que ça a été sur le terrain, non pas de fêter. Donc, il y a eu plusieurs images fausses qui ont circulé. Bon, les gens qui applaudissent du haut des immeubles, pas tout à fait vrai. C'est d'autres villes ou même des montages. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas contents. Je pense que 80 % de la population vénézuélienne, disons 70, est très, très heureuse de voir peut-être un changement de régime en cours. Mais les gens sont prudents, ils ne veulent pas être identifiés par justement ces agents du régime qui sèment la terreur depuis des années. Donc, sur place, c'est la prudence. Ça a même été un réflexe un peu de confinement. C'est-à-dire les gens, en premier temps, voulaient aller chercher de la bouffe, sont allés à l'épicerie, ont voulu s'approvisionner aussi en essence. Donc, sur le terrain, c'est une sorte de calme, là, c'est-à-dire un calme plat.
J'imagine aussi que le régime, là, laissait peut-être entendre que les Américains allaient bombarder. Donc, les gens se sont dit, on va aller aux abris, là, tu sais.
Oui, c'est un bon point.
Pour essayer d'y contrôler encore mieux, là.
Donc, c'est pas la fiesta.
Non, c'est ça.
Exactement, là, c'est pas les scènes de libération suivant la libération de la France, là, en 1945. Là. C'est pas exactement ça. Donc, beaucoup d'incertitudes. Effectivement, la vice-présidente doit finalement obéir aux Américains qui envoient un message très clair. C'est une onde de choc en Amérique latine pour... Être Gustavo Petro, par exemple, être le président de la Colombie actuellement, moi, j'aurais peur à sa place. D'ailleurs, il a même lancé une sorte de défi à Trump. Il l'a dit les jours suivants, qu'il vienne me chercher moi aussi. Je pense que ça, c'est une erreur. Donc, être dans les culottes de M. Petro ou dans celles de Díaz-Canel, le président de Cuba, je serais assez inquiet, honnêtement. Le message, écoutez, c'est une onde de choc. C'est énorme ce qui s'est passé. C'est surréaliste.
Là, je regarde les prix du pétrole. Là, aujourd'hui, ça baisse. Et là, ce qu'on comprend, c'est que ce pétrole-là, vous voyez les statistiques, en 1967, 10 % de la production mondiale venait du Venezuela. Aujourd'hui, c'est 1 % seulement. Mm-hmm. Donc, ce régime-là a complètement anéanti son industrie pétrolière. Pourquoi? Je ne sais pas. On a appauvri le peuple aussi. Repartir la machine, ça va prendre des milliards. C'est un pétrole très lourd, très difficile à raffiner. Donc, ça va demander des investissements et du temps. C'est pour ça que les marchés aujourd'hui, là, hier, les stocks pétroliers canadiens ont baissé, mais là, ça va remonter parce que je pense que ça va être des années aussi de travail. Et ce qu'on voulait, du côté des Américains, c'est parce que les Chinois étaient rentrés, là.
Oh oui.
Il y avait une délégation chinoise, je pense, la semaine dernière, qui était là. Donc, les Chinois, eux autres, voulaient mettre la main sur le pétrole, faisaient de plus en plus des affaires avec le régime de Maduro. La Russie...
La Chine gagne du terrain en Amérique latine.
Ouais.
L'intention de la Maison-Blanche est très claire. Donc, reprendre finalement la zone d'influence naturelle des États-Unis depuis la doctrine Monroe, hein, cette fameuse doctrine qui faisait de l'Amérique latine la cour arrière des États-Unis. Quelque chose qu'il faut dire aussi de très important, le récit selon lequel le Venezuela était devenu un chaînon important dans le trafic, dans le narcotrafic, international est un récit mensonger. Là, il faut le dire clairement, c'est un alibi stratégique de Washington. On le sait, le Venezuela n'est pas devenu plus important que le Mexique ou la Colombie dans l'approvisionnement de la cocaïne aux États-Unis. C'est entièrement faux. Donc, cette mise en scène-là, finalement, qui vise à associer Maduro à un narco comme, par exemple, El Chapo Guzman, là, le fameux narcotrafiquant. Oh, oui. C'est ça, on est vraiment ici dans la mise en scène, dans le théâtre. Donc ici, il faut le dire, les Américains usent d'une stratégie, disons, assez malhonnête. C'est un peu un classique, donc...
On l'avait fait en Irak aussi, hein, pour rentrer en Irak avec les armes de destruction massive.
Oui, c'est une sorte d'arnaque, là, d'une certaine façon, sur le plan du discours. Après, ça veut pas dire qu'encore une fois, que les gens sont pas contents. C'est-à-dire, Maduro est un dictateur, un criminel. C'est quelqu'un qui a fait emprisonner un nombre important de prisonniers politiques dans la fameuse prison à Caracas, Helicoïde. Une espèce de grande prison circulaire où les gens sont torturés à gogo. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui devait dégager. C'est très important. Là, il fallait entamer cette transition-là. Mais c'est sûr que les Américains, balancent la sauce pas à peu près. Là,
ouais. on sécurise l'Argentine. On sécurise le Venezuela. On va peut-être ramasser Cuba. La Colombie demeure quand même. On a le Chili. Il reste le Brésil, peut-être aussi, parce que...
Oui, très à gauche, actuellement,
avec Lula. Hein? Les BRICS, n'oubliez pas les BRICS.
C'est ça, oui, le Brésil est un morceau très, très important. Première économie d'Amérique latine. Bon, il y a Bolsonaro, sur qui il pouvait compter les Américains il n'y a pas si longtemps. Mais c'est sûr que oui, il faut voir ça à l'échelle globale, à l'échelle de l'Amérique latine. Panama aussi est un enjeu, avec le canal qui a été cédé par les Américains. C'est vraiment une erreur
stratégique. Trump a dit qu'il voulait le reprendre, là.
Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre, la Chine gagne du terrain en Amérique latine. Elle construit même des canaux alternatifs au canal de Panama, là, c'est-à-dire elle gère un méga-port au Pérou. C'est-à-dire, sa présence est vraiment tentaculaire et les Américains, évidemment, n'aiment pas ça. Et avec Trump, ils se sont dit non, là, c'est le temps de contrecarrer cette influence-là. Moi, je pense qu'on a quand même, tant qu'à avoir un empire dans la région, aussi bien avoir les Américains que les Chinois...
Après, ben là, ça dépend qui tu veux danser. Moi, je ne danserai pas avec les Chinois. Je vais te le dire. Bon, là, je le dis à tout le monde ici, là, ceux qui veulent l'entendre. Là, moi, je vais truster davantage les Américains que les Chinois.
Que le régime.
Si tu me demandes à qui je veux danser demain, ce soir, là, je danse avec les Américains. Je ne danserai pas avec les Chinois.
Ben, écoutez, moi, ça serait effectivement aussi mon choix plus naturel pour des raisons, évidemment, d'affinité culturelle aussi, etc. Après, c'est sûr que Trump s'est auto-couronné empereur des Amériques. Donc,
Je danse pas avec Trump nécessairement.
Non, c'est pas ça que je veux dire.
Je danse pas avec les Américains.
Donc, mais la game, c'est ça. C'est une game qui est géopolitique, celle de contrecarrer la Chine. Moi, j'étais récemment aussi à San Salvador, au Salvador. Et tu vois, j'étais très, très surpris de voir la grande bibliothèque dont ils se vendent tant, là, la très moderne. C'est un cadeau de la Chine. Donc, même au Salvador, où le président Bukele est censé...
Ah ouais, non, le monde, là.
Ah non, c'est très concret, là. La Chine, vraiment, avance très, très rapidement en Amérique latine. Et ben, c'est un problème dans la mesure où aussi elle importe aussi un modèle qui n'est pas celui qu'on veut non plus. C'est-à-dire, évidemment, c'est le modèle...
Ben, c'est le Parti communiste chinois.
Après ça, très pragmatique. La Chine, c'est beaucoup, pression économique plus qu'idéologique. Mais reste que on veut pas nécessairement que la Chine exporte son modèle une fois qu'elle aura établi ses bases économiques. Là. Donc, un modèle qui est encore autoritaire, etc. Bon, on va dire Trump est autoritaire, oui. Ça dépend dans quel dossier. Mais il faut vraiment, c'est ça, il faut voir ça large, hein, c'est-à-dire Trump...
C'est de la géopolitique à grande échelle.
C'est ça, il y a un partage du monde aussi, c'est-à-dire là, Trump, c'est très, très amusant parce que nos grands analystes ici géopolitiques disaient « Trump, c'est l'ami de Poutine ». Ouais, mais Trump a dégagé le seul véritable allié de Poutine des Amériques, là, à part le président cubain.
Non,
le Venezuela, c'est l'allié de la Russie, Trump le dégage. Après, est-ce que ça coïncide avec un partage du monde, c'est-à-dire les États-Unis ont les Amériques, les Chinois ont leur zone évidemment en Asie, peut-être est-ce que ça veut dire pour eux de reprendre Taïwan, la question qu'on se pose. Donc ça coïncide peut-être avec un retour des empires, des zones d'influence naturelle des empires.
Ça donne-tu une kick au droit international, justement, là? Le lancement de cette histoire-là?
Parce que l'ONU va s'en mêler, l'ONU va dénoncer... Ce coup
d'État externe.
Oui, puis bon, il va y avoir un veto américain, puis on la connaît, l'histoire.
L'ONU n'a pas de...
Pas de pogne, là.
Non.
Mais quand même, c'est stratégique aussi, parce que la Russie, le pétrole, c'est sa ressource. Là, on va chercher le pétrole vénézuélien, mm-hmm. On va faire baisser les prix éventuellement dans le monde. Donc, pour la Russie, moins d'argent qui rentre. C'est
peut-être une manière, effectivement, d'assécher l'approvisionnement en pétrole de la Russie, mais tu disais tantôt que c'est un pétrole très, très lourd,
oui.
C'est ça?
Bon, ça va prendre peut-être des années, mais on s'assure quand même de garder le contrôle sur la ressource. C'est 19 % de la ressource mondiale, le pétrole du Venezuela. Donc, quand même, il y a là quelque chose de très intéressant où la Chine l'avait vu, les Russes l'avaient vu aussi, là,
mm-hmm.
dans le cours arrière. Cuba, est-ce que ça pourrait tomber?
Oui, je pense que le fruit est mûr pour Cuba. C'est un régime vraiment en fin de vie. L'essoufflement est total. On sait, écoutez, juste les taux de prostitution à l'Havane, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de prostitution.
Non, il y a des maladies. Actuellement. Il n'y a plus de médicaments qui rentrent là. C'est terrible.
Hein, autant, il y a plus de prostitution actuellement qu'au temps des casinos américains. Donc, tu sais, c'était ça le discours au début. Là. Ouais. Les Américains viennent finalement coucher avec nos femmes. C'est à peu près le discours.
Mais Al Capone, ça, je parlais avec Maurice ce matin.
C'est un peu vrai aussi. Là,
oui. les mafieux américains avaient toutes des maisons à l'Havane.
Oui. Mais c'était beau, l'Havane, dans ce temps-là. Oui. Et puis le Havane qui est beau, qui reste encore, c'est celui-là. Écoutez, il y avait des planchers en marbre qui donnaient sur le Malecon. C'est incroyable, le Havane. Écoutez, les édifices qu'il y a là, c'est un désastre incroyable. C'est un drame moral, un drame économique. Donc, le fruit est mûr pour Cuba. Là, vraiment, dans le cas de Cuba, moi, je serais d'avis, là, vraiment, sur le plan personnel, qu'il faut, il faut vraiment faire le ménage. Parce que là, les Cubains n'en peuvent plus depuis des années, depuis les années 90, depuis la chute de l'Union soviétique. Ils n'en peuvent plus. Ils recyclent des canettes pour survivre au jour le jour. Écoutez, ça n'a aucun sens.
Non, les gens ne mangent pas. Tu vas à Cuba, tu vas te promener à La Havane, t'as une porte qui s'ouvre, c'est une femme qui t'offre ses enfants pour la prostitution.
Oh oui, non.
Mais non,
on est là.
C'est quoi ça?
Ça se particularise.
Non, c'est dégueulasse. Et je pense pour Cuba, l'avenir, peut-être plus du côté américain ou en tout cas que du côté du socialisme. Là.
Oui, bien écoutez, je pense que les peuples, d'abord, actuellement, qui crèvent de faim, préfèrent une tutelle une américaine que crever de faim. Dire très simplement. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gens dans la Clasine qui réfléchissent pas de manière idéologique. Ils se demandent pas s'il faut participer à la marche de l'histoire, etc. Ils se demandent est-ce que demain matin,
je vais manger,
va pouvoir
manger. Oh oui.
Est-ce que je vais pouvoir acheter du Tylenol ou des couches même? Là? Écoutez, on est là.
Il n'y a plus rien.
C'est une affaire de... Je vais t'avoir du shampoing en fin de semaine.
Non, oui, la grosse base.
Je pense qu'ils n'en ont même pas. Écoute,
ça dépend s'il y a un touriste qui t'en apporte.
Oui, c'est ça. Moi, ce que je faisais là, à l'époque, quand j'allais à Cuba avec un de mes chums, on se louait des petits scooters, puis on allait porter des brosses à dents, de la pâte à dents, des choses très, très, très de base qu'ils n'ont pas là, dans leur quotidien. Là.
Donc, la grande... C'est double. D'un côté, les Américains, forcément, imposent leur pouvoir, leur empire. Mais d'un autre côté, oui, les gens veulent attendre ça d'une certaine façon. Du moins, à Cuba, ça, c'est sûr. Au Venezuela aussi. Donc, la question, c'est est-ce que les Américains vont être assez honnêtes, finalement, intègres, en tout cas, entre guillemets, pour laisser, finalement, au moins en grande partie, ces peuples-là se diriger une fois qu'ils vont avoir dégagé les régimes problématiques? C'est là. Moi, j'espère que les Américains vont laisser cette latitude-là aux Vénézuéliens, aux Cubains. Après, la question du financement, ils vont toujours être là, les Américains en Amérique latine.
Mais y a-t-il les Chinois aussi qui peuvent être présents, des antennes à Cuba?
Ah oui, non, les
apparemment,
Chinois sont...
ils sont revenus assez fort.
Quand même.
Oui, ils sont pas loin.
C'est ça.
C'est la question. Comment les Chinois vont-ils réagir à leur dégagement? Ils sont été expulsés d'Amérique latine, là, d'une certaine façon. Ah, après, ça va prendre du temps.
Ouais.
C'est très compliqué au Chili et plusieurs pays, là.
Oui. On dit que le régime cubain aussi, toute la manière dont on contrôle le peuple avec les... le rationnement.
L'électricité, 5 heures d'électricité par jour.
Bien, le Venezuela a copié ça, là. Le Venezuela a copié tout ce que le régime cubain faisait subir à son peuple. Bien, le Venezuela a fait ça dans les dernières années.
Ils devancent même Noël pour faire oublier aux gens tellement ils vivent dans la pauvreté. Ils devancent Noël. Toutes les techniques sont bonnes. C'est-à-dire, écoutez, devancer Noël essayer de mettre les gens dans l'esprit des fêtes, leur faire oublier qu'ils ne mangent pas à fin de semaine et la semaine non plus. Non, c'est très grave. Écoutez, là, Venezuela, fallait que ça tombe. Après, c'est ça.
D'après moi, il y a une feuille de route. Et si on ne respecte pas la feuille de route américaine, ben, il va y avoir des conséquences. Trump l'a dit. La suite des choses, là, je regarde au niveau des médias ici. Comment expliquer qu'on vante Maduro dans certains articles de Radio-Canada, l'homme du peuple, alors qu'on sait très bien ce qu'il a fait subir à son peuple? C'est dégueulasse.
Ça, c'est une dépêche de l'AFP.
Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui a décidé qu'on le publiait. Là.
Ouais, je sais. Il y a un déficit aussi de... actuellement au Québec, d'intelligence sur la géopolitique dans les grands médias, du moins. Là, les médias alternatifs commencent à prendre le relais. Mais on suit beaucoup aux agences de presse, on les copie, puis finalement, on ne comprend pas trop la nature du texte. Non, c'est ça, on développe peu, finalement, notre propre lecture d'actualité internationale hors des médias traditionnels. Donc, écoutez, ben d'abord, je comprends pas cette gauche-là. D'abord, si vous êtes à gauche... vous êtes contre. C'est contradictoire. On ne les comprend plus. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, d'un côté, ils disent Poutine, c'est l'ami de. Trump, c'est l'ami de Poutine, mais là, Trump, il vient de dégager l'ami de Poutine des Amériques. Mais on aime Maduro, même si c'est l'allié de Poutine.
Ouais. Donc, mais là, on parle du gros cochon sale. Là.
C'est ça.
Hein? aussi, cette dérive.
Donc, vous voyez, c'est pas cohérent. Là, ils suivent pas vraiment.
Cette
en fait.
Dérive des médias subventionnés qui.
Là, ils se retrouvent à défendre l'allié de Poutine, tout simplement. Là. Les grands médias se
sont durs à suivre.
À demi-mot, ça dépend des textes. Mais ils ne savent pas trop, en fait. Puis ils connaissent peu.
Mais c'est une méconnaissance. Parce que, tu sais, je veux dire, on le voit, là, la droite est devenue l'extrême droite. On n'est pas capable d'avoir un échiquier politique gauche-centre-droit. Là. On associe Éric Duhaime à l'extrême droite. Là. Faut-tu être mêlé?
Donc,
c'est là. Bien
qu'on parle de loin. Là,
non, non, mais je veux dire, moi, selon moi, le Parti conservateur du Québec, c'est du centre. Il n'y a même pas de droite là-dedans. Là. Mais il y a un travail à faire. On devra se ressaisir collectivement. Ces médias-là qui sont en fin de vie, on les subventionne et là, on va continuer à subventionner quoi des mauvais.
Maintenant, ils sont pas bons. Écoutez, je les suis pour vraiment suivre. Je pilote un média, moi, vous savez, bon, Libre Média. Je les suis pour suivre leur évolution, savoir comment nous se positionner par rapport à ça, tout ça.
C'est divertissant. Écoutez, hein?
Ils sont pas bons.
Ben, je pense qu'ils sont bons dans les affaires locales puis des petites choses pas trop compliquées.
Peut-être dans les vaches égarées en Mauricie puis tout ça, mais écoutez, il y a un déficit de talent aussi. Je ne veux pas être hautain, mais écoutez... Là,
on travaille pas ces dossiers.
Les réflexes sont pas bons. Toujours les mêmes experts qui sont interviewés. C'est la chair Raoul d'Endurant. Écoutez, là, ça fait 50 ans.
Ils sont pro-démocrates.
Non, mais c'est toujours les 3-4 mêmes personnes, là, finalement, là, à Radio-Canada. Il faut en sortir de ça. Il faut aller parler à des gens aussi sur
le terrain. Parce qu'il manque la projection de s'élever au-dessus de Trump. Dire Trump là,
mais il faut de la morale.
Oui, non, c'est ça.
Trump, ils sont pas capables de sortir de la morale, donc ils sont pas capables de voir le tableau global.
Mais surtout
de
où
pointer.
Les États-Unis s'en vont là, dans les prochaines années. Là. C'est ça, il faut garder.
Ah, c'est de la morale. C'est-à-dire, donc, si tu fais de la morale, tu n'as pas de l'analyse. Là. Donc, ils n'en sortent pas de ça.
Ouais, l'analyse, il s'en fait à Libre Média.
Oui, beaucoup. Là, actuellement, avec le Venezuela, bon, on a eu plusieurs textes. Je pense que Salvatardise, samedi, on était pas mal le premier média au Québec à publier une analyse de fond hors d'une agence, ouais. Là, c'est-à-dire qui n'est pas tirée d'une agence.
Vous étiez là.
T'sais, à 11h samedi matin, à Libre Média, on avait un article de fond avec une journaliste vénézuélienne qui nous expliquait vraiment ce qui se passait là-bas. C'était à 11h le matin. Donc, on est réactif, on est vite. Je travaille beaucoup, ma femme me le reproche, mais que voulez-vous?
Ouais. Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef, tu es éditeur aussi de Libre Média?
Oui, rédacteur en chef de Libre Média. Ouais, éditeur en chef parce que bon, c'est un journal en ligne.
Oui, allez-vous. Les gens peuvent s'abonner?
Ils peuvent s'abonner, idéalement, oui. C'est 3-4 $ par mois, écoutez. Pour une 60. Plus que 60 contenus par mois, plus la chaîne YouTube aussi qui est rendue à 42 000 abonnés, je pense. On prépare un documentaire sur l'Argentine de Milei. On vient de l'Argentine. On va voir ça dans quelques semaines.
Ça, c'était capoté. Vous avez accès quand même au pouvoir argentin.
On a eu le mentor économique de Milei, le fameux Benegas Lynch. On a rencontré des gens importants. Oui, à Buenos Aires. J'ai fait quelques télés aussi, moi-même. Ça a créé quelques polémiques. Je ne m'attendais pas à ça.
Ouais, ben sur,
enfin, peut-être que je m'y attendais un peu.
Sur le droit de mourir.
Oui, il y a ça. Ça les choquait. Ça les fascine, hein, d'une certaine façon. Les Argentins, cette aide médicale à mourir, hein, dont on est rendu des champions déjà.
Le tango argentin, l'architecture.
J'ai beaucoup d'aimé. Buenos Aires, c'est fort, très fort. C'est très italien. Vous savez, il y a beaucoup d'immigrants italiens en 19e siècle. Je pense qu'il y a de 2-3 millions. C'est très italien. Donc, c'est formidable. Puis Buenos Aires, c'est à voir. Moi, ça faisait longtemps que je voulais y aller.
Mon fils est allé l'an passé. Puis là, mon fils est au Chili, actuellement, avec ses chums.
Ah oui, OK. Le tour de l'Amérique.
18 ans.
Ah oui?
18 ans.
Il y a un nouveau président aussi, Cast, oui. Dont on a parlé aussi à Léo Avezia.
Oui. Eux autres sont sur la plage puis ils fument des cigares. Là. Hier, ouais. Il m'a envoyé une photo, il fumait son cigare sur la plage.
Pas préoccupé par...
Tout va bien.
C'est vrai que depuis... c'est stable.
Villa del Mar, c'est une espèce de... Ben écoute, c'est la côte ouest
l'Amérique
du Sud. C'est magnifique. C'est magnifique.
Aller voir ça, c'est incroyable.
Il y en a des pays. Il faut sortir un peu quand même.
Oui, oui, exactement.
Sortez du dôme, là.
Oui. Il y a beaucoup à voir.
Jérôme Blanchet-Gravel, toujours un plaisir de Libre Média. Et, écoute,
oui, un plaisir, partagé, oui.
On remet ça, comme on dit. Après la pause,
yes.
On ouvre les lignes. Là, Charles Milliard, est-ce que c'est l'homme de la situation?
Mais il a annoncé officiellement sa course à la chefferie au courant des dernières heures. Là, ça a été annoncé publiquement avec le Parti libéral du Québec. Croyez-vous en Charles Milliard? Croyez-vous en Charles Milliard pour peut-être même être le premier ministre du Québec? Est-ce que ça va renverser la vapeur? Puis le PLQ va remonter dans les sondages? Parce qu'on a eu une descente aux enfers dans les derniers mois, on se comprend.
Les autres, ils ont une job à faire. Puis t'as Éric Duhaime qui, lui, va annoncer des candidats. Donc, le Parti conservateur d'Éric Duhaime monte. Pour qui allez-vous voter? Mais... comment on voit la dynamique? Moi, personnellement, je vois un gouvernement minoritaire. Moi, je pense qu'on s'en va vers un gouvernement minoritaire. Les Québécois ne voudront pas donner les clés du classeur au PQ. On va être un petit peu... on va être ses breaks, je pense.
Absolument.
Écoute,
on va demander aux gens de nous jaser de ça au retour de la pause. Appelez-nous au 88-670-9098. Fait qu'on va ouvrir les lignes.
On revient.
Yes, sir.
Couture dans le mid. Radio-X.